Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borne et Bernard Mignoni, bonjour.
Bonjour Christophe. Maury.
Trois chroniqueurs, trois films étrangers, puisque nous allons en Corée du Sud, en Pologne et tout de suite à New York. New York pour Memory de Michel Franco avec la sublime Jessica Chastain, Peter Sarsgaard qui a eu un Lion d'Or, hein, c'est ça ?
La Coupe Volpi.
À la Mostra.
Le prix d'interprétation, c'est la Coupe Volpi.
La Coupe Volpi à la Mostra de Venise. Et Brooke Tyber. Alors, Sylvia, elle a une vie simple. Elle fait partie des alcooliques anonymes. Elle n'a pas bu une goutte d'alcool depuis 13 ans. Et puis, elle va retrouver, on ne sait pas trop, Saul, qui était dans son lycée. Et ça va, Saul, qui est aussi un peu brisé, même carrément brisé.
Un peu un Saul pleureur.
C'est un Saul pleureur, il faut le dire. Et puis, de ces deux vies brisées, va sortir un amour et un immense amour. C'est peut-être l'amour qui souffle tout. Allez, on écoute la bande-annonce.
Thank you so much for coming out tonight. Raise a glass and toast to all of you beautiful people. Cheers!
Anna said there was a man outside.
He followed me home from the Woodbury event.
Get away from the window. You all right?
It's amazing you didn't catch pneumonia.
Well, I haven't been sick in years.
You just got lost a minute ago.
No, I didn't get lost. Listen, I apologize if I made you feel uncomfortable the other night.
It's fine.
It's not fine.
My uncle talks about you a lot. My dad and I were maybe thinking you could care for him during the day. All you'd have to do is be there and go on walks and stuff. Why did you follow me home from the party? Or do you only remember when it's convenient?
I don't remember.
You don't know what you're doing. You're not able to make rational decisions right now.
Why did you leave?
Things were just getting complicated.
What do you mean?
Why did you and Mom stop talking?
When your mother was your age, she was out of control.
Not with me.
I'm having a really hard time.
Hi, welcome back. The usual for you?
Oh, yeah.
What's the usual?
I don't know.
You don't?
No.
Do you remember her?
No.
On a un peu des frissons en entendant cette musique qui nous renvoie.
C'est la musique de ma jeunesse, c'est Procolarum, entre autres. Alors qu'est-ce que je peux dire du film ? C'est un beau film, alors c'est très banal de dire que c'est un beau film, comme on aimerait en voir plus souvent, hein, pour que finalement... C'est pas seulement ça, c'est dans ce qu'il a de sobre et de profond. C'est un film d'amour où, a priori, l'amour n'aurait pas sa place. Lui, il n'a plus de passé, il n'a plus de mémoire. Elle a voulu oublier son passé, meurtri, blessé par un père incestueux, et... Il va la suivre, la rejoindre, la trouver avant de la retrouver. Ils vont se comprendre, s'aider et s'aimer enfin. C'est tout le thème du film qui est très beau parce qu'on a deux handicapés de la vie qui, pour oublier leur passé ou pour essayer de retrouver autre chose, vont vivre au présent. C'est un film sur le présent et sur le présent de l'amour, finalement, où le passé est balayé.
Et
l'amour, c'est ça, au fond.
C'est ce qui le rend très lent.
Oui. Et l'amour, c'est ça, c'est le présent. C'est pas le passé. Le passé, c'est la nostalgie. Le futur, c'est un projet. L'amour est au présent. Et c'est ce qu'ils nous disent. Donc, c'est vraiment un film d'amour. On peut pas dire mieux. C'est une rencontre rare, belle. Le film est à leur image. Vous l'avez dit, Jessica Chastain est très bien. Elle exprime la douleur et l'élan. Peter Sarsgaard, la brutalité, parce qu'il a un physique assez brutal, mais la fragilité aussi en même temps. C'est très beau. C'est parfois un peu lent, c'est vrai, mais le film est à leur image, simple, sobre, en évitant tout mélo ou sentimentalisme superflu. Même leur rapport physique est très, très elliptique.
Le premier baiser est superbe.
Oui, le premier baiser est superbe.
Très long, très long.
Oui, oui.
Au moins 2 minutes.
Et oui. Et c'est très beau, c'est la, voilà, elle aidait les autres, elle va s'aider elle-même en aidant un seul autre. À noter leur premier rapport, justement ce que je disais, mais c'est délicat entre les lignes de la vie, une autre qui n'appartient qu'à eux, et cette vie, ils nous la font partager en douceur sur la ligne brisée de la vie. Et ça, c'est assez beau. C'est, à mon avis, l'un des plus beaux films parmi les trois que nous avons cette semaine.
Eh bien, Marie-Noëlle ?
Oui, je suis assez d'accord. C'est très étonnant et touchant la façon dont les choses émergent peu à peu. Le début est assez mystérieux. On est très, très...
La
on
ne sait pas trop.
Non, même avant, quand je parle du début, c'est... Il y a une réunion d'alcooliques anonymes. Ensuite, on est dans un centre de handicapés ou avec Jessica Chastain. Là, il y a un peu de sa famille, sa fille, sa sœur. On ne sait pas trop. C'est très mystérieux, oui, les données. Et puis, cette réunion, cette fête d'anciens du lycée, où elle assiste, à laquelle elle assiste d'un peu loin, solitaire.
Mais elle ne boit pas.
Elle ne boit pas. Et elle est suivie dans le métro par un garçon, un homme qui s'y trouvait. Et donc, les choses... émerge peu à peu, se dessine à partir d'une sorte de flou initial, sans contour très précis, et on voit se créer sous nos yeux un lien entre peur et compassion, entre attrait et oubli, voire déni, et tout ça se tisse peu à peu. C'est très beau, et émerge ce duo, en effet, de très très sensible, très fin. Alors les acteurs, évidemment, tout est centré sur ces personnages magnifiques, sans que le reste soit sacrifié, mais centré vraiment sur Jessica Chastain, est merveilleuse de nuances, de subtilité, de chaleur, de délicatesse, de peur aussi, d'effroi. Et lui, comme l'a très bien dit Dominique, ce mélange de brutalité et de douceur, de sensibilité, de délicatesse, et ça fait un mélange très émouvant, oui.
Bernard. Alors, je suis tout à fait d'accord avec mes camarades pour les qualités du film. C'est vrai que ça baigne dans une douceur et une tendresse prégnante pour ce film de Michel Franco. Le réalisateur, en plus, alors, bâtit quand même l'air de rien, une subtile oscillation entre celui qui perd malgré lui tous ses souvenirs et celle qui ne peut oublier. Et on apprend pourquoi en cours de route. Nous en avons parlé hors antenne, mais il y a quand même une scène tout à fait remarquable, qui est une scène d'aveu, où vous avez la réunion des personnages. Vous soulignez, Christophe, que c'était une scène parfaitement dramaturgique, parfaitement théâtrale. Et c'est vrai que là, c'est sans doute la scène la plus intense du film. Et puis, il y a quand même un écheveau relationnel, l'air de rien, tissé entre les différents personnages, avec beaucoup de complexité et de densité. Et pour chacun des personnages, ce qui est quand même ça, une grande qualité. Tout à l'heure, notre camarade Dominique a dit que c'était Procula Rhum. Pour nos amis cinéphiles, Nick Nolte peignait sur cette musique dans un des sketchs de New York Stories. Il me semble que c'était le sketch de Martin Scorsese, précisément sur cette musique-là. Et un coup de chapeau à la mère, qui est interprétée par Jessica Harper, que l'on avait vue dans Stardust Memories de Woody Allen, et qui était l'héroïne du chef-d'œuvre de Dario Argento, Suspiria, où elle était une danseuse dans une académie de danse tenue par des sorcières. Maintenant, on peut regretter, et c'est là où je m'éloigne un tout petit peu de Marie-Noëlle, le début peine tout de même à commencer, avant justement la poursuite dans le métro. Les situations se révèlent tout de même répétitives. On va chez l'un, on va chez l'autre, et puis on retourne chez l'un, et puis on retourne chez l'autre, même si tout ça est irrigué par beaucoup de douceur et de tendresse, comme je le disais. Le film tombe quand même de manière abrupte et escarpée. J'ai trouvé que la dernière scène... Ah bon, c'est fini ? Et ça, c'est tout de même un petit peu dommage. La mise en scène a tendance à bâiller aux corneilles. Il n'y a pas de faute de réalisation, mais on n'est pas saisi par une scène en disant « Ah oui, place sa caméra !» Quelle invention ! Jamais. Et puis l'ensemble, quand même, ne réussit guère à surprendre. On y est bien, on s'y plaît, mais on est
quasiment jamais étonné. Je dirais ici qu'une telle œuvre donne à voir tous les tourments qui gravitent autour de la perte de mémoire, en d'autres termes, oubli et orbite.
Alors nous passons maintenant à Greenhouse. C'est une aide-soignante à domicile, Moon Jung, qui s'occupe formidablement bien d'un vieil homme qui est aveugle et puis de son épouse. Et puis il y a un accident terrible qui va les séparer et Moon Jung se trouve accusée. Il va falloir qu'elle prenne des décisions assez insupportables. On écoute une partie de la bande-annonce.
Moon Nam 씨, 좀 어떠세요?
문 아니고 순남. 아이, 시원해요.
언니, 저요. 우리 수업에 처음 왔을 때부터 뜨거워요, 언니.
고생이 많으셨네요.
네, 안 뜨거우시죠? 괜찮으시지?
운전은 아버님이 하세요, 운전.
아, 내가 운전을 어떻게 합니까?
괜찮으세요? 재밌으세요?
은정 씨 덕에 운전을 다 하고 날아갈 것 같아요.
저 아가씨 하나 죽이려고. 나 죽여봐!
C'est un film de Sol Wi Lee avec, je vais essayer de bien le prononcer, c'est Oyeong Kim, Jae Sung Yang et Soso Han.
Voilà. Vous le répétez encore un petit peu.
Oui.
Bon, alors avant la chambre verte de Truffaut, qui est la chambre sommet, il y a la maison verte. Cette maison verte, c'est la fin de vie finalement, le greenhouse. Hein. C'est regarder les plus âgés en fin de vie. Mais ici, la compassion avec, pour un aveugle, puisque lui est aveugle et elle a des crises de démence, la compassion laisse place à un calcul beaucoup plus cynique. Pour substituer sa propre mère à la femme disparue, elle est capable de tout, celle qui s'occupe d'eux. Voilà. Alors c'est s'occuper des anciens, s'occuper des handicapés, c'est d'abord penser aux siens, en fait. C'est un petit peu ce que je me dis. Et il faut dire que dans le cinéma coréen, il y a une cruauté, il y a une violence, hein, on peut se souvenir de Old Boy, de Park Chan-wook, qui était déjà très dur, qui était présenté à Cannes, je me souviens bien. Voilà, on a une femme qui devient un monstre finalement très vite, alors qu'au départ elle est dans un semblant de compassion, elle devient un monstre. Et c'est une autre façon de regarder la fin de vie comme une charge inutile avec laquelle il faut s'arranger, quitte à envisager le pire. Et là, elle envisage le pire. Alors la maison verte, c'est un peu une sorte de purgatoire social qui regarde en face la douleur, le vieillissement et la conscience parfois égoïste et monstrueuse des jeunes générations. C'est pas très gai, mais c'est peut-être assez juste, hélas.
Hélas, Marie-Noël.
Alors je l'ai vu d'une façon
différente,
oui. Parce que j'étais très intéressée et touchée par le personnage féminin qui est pratiquement tout le temps à l'écran. Et j'ai trouvé l'actrice sensible. Il ne m'a pas paru à moi qu'elle était un monstre très vite.
Oui.
Elle est prise au piège de circonstances qu'elle n'a pas
maîtrisées.
Mais on la voit. Elle est d'ailleurs assez cousine du personnage de Jessica Chastain dans Memory.
Oui.
C'est assez étonnant, cet écho de film très éloigné. Parce que c'est une blessée de la vie. On la voit d'abord avec son fils qui est en prison dans un centre de rétention de mineurs et pour lequel elle voudrait tout faire et qui s'occupe en même temps, donc c'est une blessée de la vie qui s'occupe des autres comme le personnage de Jessica Chastain qui est au service et au service avec beaucoup d'efficacité et de bonté. Elle est très très bien chez ce vieux couple élégant, cultivé. On sent que ce sont des... Lui, il était peut-être professeur, il est aveugle, mais il est au milieu d'une immense bibliothèque pleine de livres. Elle, sa femme, est démente, elle crache à la figure de l'aide-soignante. Elle est d'une violence paranoïaque. Et elle supporte tout. Elle admet tout. Elle aime beaucoup son maître, ce vieux monsieur, son patron. Elle l'aime énormément, elle le respecte infiniment. Il est généreux, il lui prête sa voiture, par exemple, qu'il ne peut plus conduire. Mais elle... elle est bien au milieu d'eux. Moi, je l'ai pas vue du tout comme
un monstre.
C'est un monstre
généreux parce qu'elle non,
c'est pas un monstre pour moi du tout.
Et elle le fait conduire sur une sorte de grande pierre.
Oui, ils ont une très belle relation. Je trouve que c'est un film longtemps sur le lien et sur les liaisons et les déliaisons, les liens entre les êtres très très subtils et puis ce qui se défait par la vieillesse, par la perte de mémoire, par la, en effet. Et il arrive, oui, mais il arrive un accident et elle ne sait, elle est dans la panique et elle doit faire face à cet accident et qui brise tout à coup sa vie et c'est justement coupe tous ses liens très brusquement.
Et mais comment voir la fin, la maison incendiée, les
enfants. C'est les conséquences. Mais il y a des conséquences d'un geste. On pose un geste et comme disait ton cher Brieux-La Rochelle, quand on veut quelque chose, on ignore que c'est vouloir toute la vie et les conséquences qui vont avec. Et ça, dans ce sens-là, c'est une réflexion très morale. Ça arrive à un désastre, mais qu'elle n'a pas voulu.
Bernard, un film peut-être sur la fin de vie, mais je dirais surtout un film policier très retors, hein, très coriace, avec un scénario qui est ambitieux. C'est coup de théâtre, une certaine invention, et ça, cela emporte l'adhésion. La réalisation ménage d'ailleurs avec un doigté constant et un ton détaché, élégant, un climat assez déroutant. Et dès le début, d'ailleurs, dès les premières images, on est assez déconcerté. On se dit, mais où est-ce que je me trouve ? L'épilogue, vous en avez parlé, est aussi habile que hardi, même s'il soulève des questions. Et ici, nous avons quand même affaire à une représentation feutrée de l'acharnement de la fatalité. Parce qu'elle se trouve prise, Marino, elle l'a dit différemment, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'elle se trouve prise dans un maelstrom de vicissitudes qui la dépasse et elle fait catastrophe sur catastrophe. Ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même elle est très déséquilibrée aussi, hein, parce qu'elle se gifle dès les premières images. Elle est quand même très fragile. Maintenant, c'est quand même difficile de voir un film où seul le vieil homme est sympathique. Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de cruauté, comme l'a dit Dominique, mais jamais un moment de légèreté, jamais un semblant de dérision, ce qui alourdit encore l'ensemble. La conduite dramatique, mais c'est le propre d'un certain cinéma coréen, souffre d'une certaine lenteur. Et puis, il y a quand même pas mal de questions qui sont laissées en suspens, notamment au sujet d'un meurtre commis dans une voiture, notamment sur cette fin elle-même. Et puis, il y a une scène avec un magnétophone. Il passe très, très vite là-dessus et on aimerait en savoir plus. Et on peut s'étonner aussi qu'il y a un cadavre dans un placard, qu'il n'y ait pas plus d'odeur. Hein. Ça, c'est quand même très, très surprenant. Alors ici, on pourrait dire que dans Greenhouse, avant de se voir rongé par le verre, les deux vieillards sur le déclin découvriront en quoi consiste l'aide à homicide.
Une autre vie que la mienne, on est dans la Pologne de Solidarnosc. C'est l'histoire d'Andrzej, qui est un bon mari, un jeune père, enfin, il est très mignon, tout se passe très bien, et puis il est de plus en plus mal à l'aise dans son corps, il veut retrouver sa véritable identité. Bien entendu, on comprend que qui va changer de sexe, qu'on est dans le LGBTQ+, qui est interdit en Pologne, et donc c'est un film assez militant. Voilà. Dominique.
Oui, c'est un film militant. On le sent, c'est un plaidoyer pour l'LGBT. Alors à première vue, ce qui est intéressant, c'est la progression du personnage. À première vue, c'est un malaise, un mal-être vraiment, une malédiction qui va devenir un combat contre les autres, contre la famille, contre les institutions et contre soi-même finalement. C'est douloureux, un peu maladroit, c'est long, c'est pénible, même par certains côtés, c'est trop long. Hein, et on finit parfois par se désintéresser du sort de cet homme qui n'en est plus tout à fait un et qui va devenir la femme qu'il voudrait être alors qu'il s'est marié, qu'il a un enfant, qui veut vivre sa vie envers et contre tous. Mais le récit n'est pas assez linéaire, peut-être, mais c'est vraiment l'image d'une douleur. C'est le but du film, c'est ça, c'est nous apitoyer sur un lieu de ce qu'on peut comprendre. Hein. En plus, on rajoute une escroquerie. La prison, c'est trop pour suivre tout à fait l'itinéraire du héros, trop tourmenté, trop incompris. Voilà, il devient la victime expiatoire d'une société, si bien que la malédiction l'emporte sur le combat. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais c'est même assez pénible à voir, même si on comprend le but entre les lignes du film.
Merci, Dominique-Marie Noël.
Oui, ça a la particularité d'être polonais, c'est-à-dire de montrer ce côté militant, de faire un parallèle entre la transition du pays, du communisme
au capitalisme,
au capitalisme et la transition de genre, en effet, de ce héros, puisque le film se déroule sur 40 ans. Alors la durée est à la fois un atout, dans ce sens qu'elle révèle ce qui pourrait passer pour une obstination, et qui est donc quelque chose de nécessaire et pour le héros. Et puis, c'est aussi une faiblesse parce que, en effet, ça traîne trop et qui trop embrasse mal étreint. Il y a beaucoup de péripéties, en effet. Pour lier la politique, la société, les évolutions, la marginalisation, etc. Donc, il y a trop de choses. On sent que les deux réalisateurs voudraient un peu être du côté de Wajda ou des grands cinéastes polonais. Ce n'est pas ça, évidemment, c'est être une grande fresque. Malheureusement, ça reste assez moyen. La mise en scène ne casse vraiment pas des briques. Il y a un chromatisme mélo très kitsch, souvent. Il y a des scènes glauques, il y a vraiment, et d'autres étranges, parce qu'il y a cette spécificité polonaise de mêler un peu religion et politique.
Oui.
Et trouve refuge chez des religieuses.
Bernard. Voilà.
Mais ça reste très moyen et
Bernard,
décevant.
Vous avez trois minutes.
Et c'est un authentique film, parce que moi, contrairement à Marie-Noël, je trouve que la réalisation a tout de même du cran, l'interprétation se révèle tout en nuances, et le ton d'une constante singularité, de serait-ce que par son sujet, sort du rang. Il me semble que personne d'entre nous n'a dit que le réalisateur est aussi l'acteur, c'est-à-dire Malgorzata Zumowska, il y a Michel Angler également, mais lui réalise et joue et a le rôle principal. L'entrée en matière, énergique, intrigante, pudique, avec un voile dérobé, s'avère prolifique. Une musique que je disais qui a beaucoup de talent, qui est due à Jimek. Bon, J-M-K. La relation entre les deux personnages principaux, c'est-à-dire cet homme qui veut changer d'identité et sa femme, suscite un intérêt.
Oui, ça,
constant.
C'est la belle part, je trouve. C'est l'amour, un hymne à l'amour qui se transforme en même temps que les êtres.
Tout au long du film, et ça rappelle beaucoup par son sujet Danish Girl, qui était sorti en 2016. Maintenant, s'accumule quand même lourdeur et volubilité. Là encore, jamais de moment d'humour, à aucun moment.
Ah
la fin est cruellement elliptique. Là aussi, on dit « Ah bon, c'est la fin ?» Il y a une scène démonstrative débat qui fait débat, je dirais. L'intrigue a peut-être le tort de se concentrer exclusivement sur les problèmes d'identité du personnage central. Et on comprend, vu le problème suscité par la Pologne, eu égard à ces questions-là, mais il aurait pu partir vers les autres personnages. Le fils est intéressant, la femme aussi. Et il concentre tout là-dessus. Et d'ailleurs, à ce propos, les seconds rôles demeurent quand même assez sommaires, en raison d'une description précipitée. Je dirais que sans entrer dans l'âme trans, nous avons quand même ici un film qu'eût pu concevoir Orson Welles.
Merci beaucoup, Bernard Mignoni.
Il est content.
Le public est là, c'est ça qui est important. Merci à tous les trois, Marie-Noël Tranchant, Dominique Bon et Bernard Mignoni. Nous avons vu pour vous Memory de Michel Franco, Greenhouse de Sol-Louis Lee et Une autre vie que la mienne de... Reprenez vos notes.
Mais Malgorzata Zumowska.
Voilà.
Et vous avez raison, Marie-Noël, Michel Angler, puisqu'il y a deux réalisateurs. Mais il y a le réalisateur, j'aurais dû dire,
oui,
Malgorzata Zumowska, et son comparse, Michel Angler, qui n'est que réalisateur.
Vous demandez encore des applaudissements. Merci à tous les trois. Merci Cédric Coba pour la réalisation. Merci François Dieudonné, Philippe Matpeuch, Camille Meyer et Faustine Cléry pour la réussite technique de notre rendez-vous. Alors demain, c'est jeudi, je recevrai Marlène, prénom Marlène, précisément, pour son livre sur les 9 dons de l'esprit. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.